Depuis deux siècles, c'est l'une des préoccupations constantes de notre discipline que de classer les écrivains par espèce, sur le modèle des sciences naturelles, ou d'en esquisser une sorte de cartographie, comme lorsque Sainte-Beuve, dans une formule restée fameuse, situait Baudelaire à l'extrême pointe du Kamtchatka littéraire. Si je rappelle ce mot, c'est aussi que la notion d'extrême contemporain semble avoir été forgée sur le patron morphologique de l'extrême-orient. L'idée implicite est que la littérature d'aujourd'hui serait exploratoire, qu'elle s'éloignerait résolument de ses bases. Et de fait, l'ingénieux montage alphabétique qui présidait à la tétralogie, parue entre 91 et 98, a amené la critique à présenter Camille Laurence comme une romancière d'avant-garde et prise de dispositifs novateurs. S'il n'est pas question pour moi de nier cette inventivité technique, qui est l'un de ses talents, il reste qu'il y a là un malentendu initial que je vais tenter de dissiper en soutenant la thèse opposée. Car comparé à la présente production autofictionnelle, l'œuvre de Camille Laurence me paraît au contraire se signaler par son classicisme, un classicisme assumé, et non par je ne sais quelle hypermodernité. Telle qu'elle fut inventée par Dubrovski, l'autofiction relevait, on s'en souvient, de la littérature expérimentale, puisqu'il s'agissait de combler l'une des cases vides du tableau générique dressé par Philippe Lejeune dans le pacte autobiographique. Et, ce faisant, le romancier tournait résolument le dos au spécialiste de Corneille qu'il était, et même, comme styliste, à l'essayiste qui avait écrit « Pourquoi la nouvelle critique ?» dans une langue impériale. Fils a beau être un chef-d'œuvre, c'est un livre auquel le souci de la beauté et de la composition semble étranger. Et il ne pouvait en être autrement, puisque ce débrailler fait sens. Le narrateur s'abandonne au désordre d'un style de flux, comme il se livre à une pulsion autobiographique délivrée de toute censure. Ce dépoitraillage jubilatoire s'inscrivait à l'évidence dans le contexte des années 70, celui de la libération des mœurs. Et il appelait une écriture elle-même désinhibée, dont le bouillonnement baroque subvertissait les normes de la littérature officielle, nous conduisant aux antipodes de l'esthétique classique, éprise de bienséance et de retenue. Stylistiquement, son fracas oratoire est monstrueusement prolixe, son asianisme, aurait dit nos rhétoriciens, était à l'opposé de cet effet de sourdine par lequel Léo Spitzer avait caractérisé l'art de Racine. Depuis lors, l'autofiction a pris deux directions. Quelques écrivains véritables ont perpétué l'esprit initial du genre. Grâce à eux, il demeure méta, ludique, fictionnel et tourné vers la psychanalyse. Cependant, la plupart des autofictions déclarées ne le sont plus que pour la douane, comme dirait Genette. Ce sont des contrefaçons qui, sous ce nom, permettent aux éditeurs d'écouler du romanesque de consignation, où s'étalent sans art les confessions people les plus littérales. Or, aucune de ces deux tendances éditoriales n'obéit à l'idéal du classicisme. Pour le déboutonnage de l'autofiction discount, cela se passe de démonstration, qu'il s'agisse du style inexistant ou de la thématique d'une vulgarité criarde et criante. Mais la verve métanarrative des autofictions véritables, également inconvenante et par nature subversive, n'obéit pas davantage au canon des belles-lettres, à son impératif de tenue et de mesure, au double plan de la morale et de l'expression. Entre ces deux pôles de l'écriture de soi contemporaine, on identifie sans peine un courant plus sage dans le style, à défaut de l'être dans les mœurs. De tradition libertine, ce corpus exhibe une sexualité débridée dans une langue qui ne l'est pas. Mais n'est pas NRF qui veut, et l'académisme n'est pas le classicisme. Ces livres-là, non seulement n'ont pas su inventer un ton qui soit à la hauteur de leur compulsion tapageuse, mais, le plus souvent, ils se contentent d'une prose appliquée qui sent la copie, comme dit la narratrice de Ni toi ni moi. Dans ce tableau des pratiques autofictionnelles, Camille Laurence occupe une place à la fois paradoxale et singulière. Paradoxale, en ce qu'elle conjugue la modernité fondatrice du genre et un classicisme avec lequel il semble a priori incompatible. Singulière, dans la mesure où aucun autre auteur ne me semble avoir relevé ce défi avec autant de conviction et de bonheur. On a depuis longtemps étudié chez elle les jeux de l'intertextualité présents dès ses débuts et dont l'efficacité repose sur une nécessaire connivence culturelle avec le lecteur. J'ai pu le vérifier en donnant à l'Université de Toronto un cours sur l'avenir, le livre de Camille, devant des étudiants de maîtrise, public en principe averti, mais formé aux auteurs contemporains plus qu'aux grands textes du passé. Résultat, la plupart des allusions littéraires de ce roman, où elles abondent, des choses aussi célèbres que « Je sentis tout mon corps est transir et brûler » leur avaient échappé, et avec elles une partie de la saveur du texte. Littérature d'agrégé, sans doute. Par la multitude de ses références, en tout cas, l'œuvre de Camille Laurence est une réaction à la politique de la table rase qui caractérisait le nouveau roman, dont Nelly Wolf a montré quel rôle il a joué dans la contestation de la culture scolaire des grands lycées. Pour nos classiques, au contraire, l'écrivain ne saurait se trouver qu'en dialoguant avec ses brillants prédécesseurs. Racine n'existe pas sans Euripide, ni La Fontaine sans Ésope. En somme, toute écriture suppose une culture. Pour dessiner les contours de sa bibliothèque intime, il faudrait prendre le temps de relever méthodiquement dans l'œuvre de Camille Laurence les sources des citations et des allusions littéraires. À quand une édition savante ? Elle-même dresse parfois en fin de volume la liste des auteurs que nous aurons croisés. Une chose est sûre, de son propre aveu, celui qu'elle admire le plus est Racine. Et de façon générale, il est visible que sa préférence va aux classiques. Madame de Lafayette, Pascal, Marivaux. C'est ainsi que les maximes de La Rochefoucauld font la matrice de l'amour roman. Et, au seuil du romantisme, par un contraste saisissant, quoi de plus sobre, de plus mesuré, jusqu'à la froideur du cynisme, que la prose de Benjamin Constant, dont Adolphe sert de trame aux 400 pages de Ni toi ni moi. Au-delà des réminiscences et des références qui émaillent ses fictions, c'est la langue même de Camille Laurence qui est imprégnée de celle de nos classiques. « J'ai une passion pour la langue classique », avoue-t-elle. La narratrice de l'amour roman allant jusqu'à affirmer « La langue de La Rochefoucauld est la mienne, celle que je parle et que j'ai toujours parlé. » La romancière a beau insister sur le désir, son vocabulaire, pour commencer, est celui de la passion. Il a ceci de classique que la conjonction des corps n'y a de sens que dans la perspective de l'amour. Or, cette question de l'amour, qui fait, selon Camille Laurence, le sujet principal, l'enjeu majeur de l'autofiction, est de tout temps. C'est, dit-elle, une question intemporelle et intempestive à la fois, qui nous arrache aux normes du moment, déchaînement sexuel, impératif de jouissance. Mais le style de Camille Laurence est irréductible à son lexique. Et s'il est celui d'une classique, c'est surtout en raison de sa transparence, de sa limpidité. Comment caractériser ce classicisme du style, sinon négativement, par ce qu'il évite ? La prose de supermarché, dont la lisibilité se paye de ses lieux communs, de cette phraséologie fossilisée qui écœure la narratrice de Ni toi ni moi. Mais aussi la logorée confuse des récits de vie oralisés, dont le prologue de « Celle que vous croyez » ne donne l'exemple que pour refuser la tentation trop commune, montrant quelle pente pourrait suivre la narratrice si elle se laissait aller. Tout l'art de Camille Laurence est dans cet équilibre, se tenant à égale distance du verbiage sans ponctuation ni syntaxe, et des conventions passe-partout de l'écriture industrielle. N'eût été l'affaire Otchakovsky-Laurence, il est plus que probable que Camille aurait de toute façon quitté POL pour Gallimard, qui est pour elle bien plus qu'un refuge, sa demeure légitime. Or, le fameux comité a beau depuis toujours s'en défendre, il y a bien un style NRF. Et Camille, qui était depuis longtemps publiée en folio, n'a pas usurpé le sigle prestigieux désormais imprimé sur la couverture de ses livres. Un style NRF, qu'est-ce à dire ? Qui oserait le définir sinon ici encore par défaut ? À parcourir le catalogue, les lettrés reconnaissent pourtant un air de ressemblance entre toutes les signatures de la maison, une petite musique commune, dont l'ambition tacite est de prolonger en plein XXe siècle et jusqu'au XXIe, une certaine tradition française qui a justement pour nom le classicisme. Mais le paradoxe de ce grand art est de n'être pas réductible à des règles. Sa souveraineté n'est régie par aucune charte. Il faut se garder de malmener notre langue, mais la respecter ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler, mais surtout que ce labeur reste invisible. Le grand style est soigné, mais qu'il paraisse laborieux, et le voici sans force. Depuis Madame de Sévigné, nos classiques se sont toujours réclamés du naturel, mais au prix de bien des biffures. Je n'ai jamais vu les brouillons de Camille, mais je ne serais pas surpris qu'ils soient raturés de partout. Le style NRF est l'autre nom du paradoxe d'écrire. L'homogénéité est sa loi d'airain, mais l'uniformité lui est fatale. Attique, depuis toujours, il se garde du laconisme comme de la verbosité orientale. Mais la perfection rhétorique le ramènerait à l'éloquence d'école. Enfin, ce qu'il y a de plus NRF dans l'écriture de Camille Laurence, c'est peut-être son sens du rythme, qu'elle-même souligne. Sa phrase est nombreuse, elle tombe toujours juste à l'oreille, mais si elle s'en contentait, elle ne serait que phrasée. Son sens de la variatio est manifeste, mais s'il n'y avait là qu'un procédé, comme chez Cicéron, son art serait celui d'un orateur, non d'un écrivain. Ce qui sépare Racine de Boileau, c'est la mobilité des coupes, l'invention du trimètre, la cadence mélodieuse des anapestes et des iambes. Tel est le fossé du classicisme à l'académisme. Et de même, la prose de Camille Laurence se reconnaît d'emblée à sa pulsation intérieure, nullement fabriquée, qui se fait tantôt fluide, tantôt nerveuse, ample et périodique ici, là abrupte et contractée, avec un sens accompli des spirales, des dilatations lyriques et des closules, mais, par-dessus tout, de la respiration intérieure du texte, dont les diastoles et les systoles transcrivent avec la justesse d'un oscillographe les variations émotives de l'héroïne. À cet égard, c'est une erreur d'opposer dans l'amour roman la modernité du parle-écrit au phrasé éminemment classique de La Rochefoucauld. Car s'il y a bien une oralité du style laurentien, elle tient généralement à la situation d'énonciation, comme la consultation médicale dans Celle que vous croyez. Mais surtout, elle n'a rien à voir avec la copia incontrôlée de certaines écorchées vives dont la langue n'a plus aucune retenue et dont l'effarant décousumat du roman écrit par Luc dans Romance nerveuse est la parodie. Encore, la souveraineté du style n'est-elle pas le trait le plus définitoire d'un auteur classique ? Sauf à être rattaché à un idéal plus large de maîtrise artistique. Le classique est un cérébral. Il n'envisage pas que son activité créatrice puisse lui échapper. Il entend la dominer sans faille. Cette phénoménologie de l'écriture, censée être entièrement lucide, une lucidité que Camille Laurence déclare recherchée, peut bien nous apparaître aujourd'hui un peu naïve, elle n'en témoigne pas moins d'un haut degré de contrôle, dont la manifestation la plus évidente est le souci de la composition. Est-ce un hasard si nos classiques ont surtout écrit pour la scène, portant à un degré inégalé la rigueur de la construction dramatique? C'est à la lumière de ce souci architectonique qu'on peut en tout cas réinterpréter le soin tout particulier que Camille Laurence porte à l'exigence architecturale, comme elle dit. Elle-même insiste sur la nécessité de dépasser, je cite, « le chaos qui précède l'écriture » en un texte qui soit ordonné, agencé, jusque dans la clarté de sa syntaxe. Dans l'écriture, déclarait-elle récemment, il faut tout maîtriser. Mais pourquoi cet effort d'agencement aurait-il plus à voir avec la poétique néo-romanesque ou quelques penchants oulipiens? Pourquoi l'œuvre de Camille Laurence procéderait-elle de ces écoles, dont la plus singulière curiosité est d'avoir évacué toute profondeur psychologique? N'est-il pas plus cohérent de rapporter son ambition architecturale à l'impératif classique d'équilibre du discours, ce qui implique d'en tirer le plan au cordeau, comme d'un jardin à la française. Affirmant qu'il faut dans tout roman quelque chose de pur dans le tracé, Laurence ajoute qu'elle n'est pas très baroque en ce sens, plutôt classique. Et quoi de plus classique, en effet, que de définir, comme elle le fait, la beauté d'une œuvre par son harmonie d'ensemble. Dans une étude sur Ni toi ni moi, Jutta Fortin a mis en évidence, dans une perspective psychanalytique, la volonté d'empire sur soi à laquelle répond ce texte. À propos de Romance nerveuse, j'ai de même tenté de montrer que cette exigence stylistique et formelle dont parle Camille, pour l'opposer au vomissement verbal informe dans lequel le héros borderline prétend écrire son autofiction, répondait à un principe éthique autant qu'esthétique. Car le style d'un écrivain, s'il n'est pas de pure fabrication, renvoie sa manière d'être au monde. Et à cet égard, l'une des singularités les plus frappantes de l'œuvre de Camille Laurence est de s'élever contre l'avachissement aussi bien formel que moral d'un certain courant autofictionnel. La nécessité ontologique de se tenir debout, Haltung, dit Heidegger, cette nécessité de se tenir debout pour ne pas se liquéfier dans le magma des Stimmungen, est à la fois le sujet et la leçon d'un texte comme Romance nerveuse, dont le titre mêle justement la poétique des genres et la psychologie. Un livre convulsif, dit ni toi ni moi, est comme un film sans montage, une inconsistance radicale. En définitive, personne n'est moins pulsion d'écriture que Camille Laurence. À mes yeux, c'est là un point essentiel qui la distingue parmi ses pairs. Par là même, son œuvre a quelque chose d'intempestif, mais n'est-ce pas là l'une des conditions du classicisme ? Intempestive, Camille Laurence l'est à bien des égards. Face à la dépravation du tout venant autofictionnel qui semble craindre, comme le dernier des ridicules, de s'interroger sur le bien fondé des dérèglements sexuels, elle n'hésite pas à faire œuvre de moraliste. Aussi est-il erroné d'affirmer, par exemple, à propos de l'amour roman, qu'en s'appuyant sur les maximes de La Rochefoucauld, elle cherche un effet de style, un jeu intertextuel, plus qu'un discours sur les mœurs. Entendons-nous bien, nos moralistes ne sont pas des prédicateurs, ils sont avant tout des observateurs, lucides et acides des mœurs de leur siècle. Et cette posture implique une poétique, qui est en l'occurrence celle du roman d'analyse, que Camille Laurence revendique volontiers. À cet égard, la présence récurrente dans notre corpus de la figure topique dans l'autofiction du psychanalyste, d'ailleurs traité par la dérision, ne doit pas faire illusion. Littérairement, les moyens de Camille Laurence sont ceux de la plus pure tradition du roman d'analyse, c'est-à-dire de la psychologie classique, même si son outillage théorique emprunte parallèlement à la psychiatrie moderne. Il y a surtout, et c'est là encore une différence majeure par rapport à la plupart des autofictions du moment, que le vécu n'est jamais ici une fin en soi. En vérité, malgré les apparences et la propension d'une certaine critique à tout ramener à la vie de l'auteur, nous sommes ici bien loin du régime ordinaire de l'écriture de soi. Il faut le répéter, l'autofiction laurentienne est une fiction, ce qu'elle n'est pas toujours ailleurs, alors que cela change tout. Que la romancière tire son inspiration de son expérience personnelle, il n'est pas question de le nier. Je sais pertinemment, dit-elle, que je ne parle que de moi à travers mes livres et mes personnages. Mais si je racontais ma vie au premier degré, ce serait mortel. L'autofiction, ajoute-t-elle, c'est prendre sa propre vie comme matériau pour une reconstruction. Aussi, ce substrat empirique est-il soumis à un remodelage vigoureux qui est à la fois une manière de composer et une question de principe, sinon une éthique. Une manière de composer, car la jeunesse des narrations laurentiennes se confond en pratique avec ce processus de transposition dont elle affirme la nécessité et qui ne transfère dans l'univers diégétique des éléments empruntés à la vie privée que pour les transformer suivant les lois de l'imaginaire et de l'art. Stylisation, tonalisation, dramatisation, amplification, condensation, etc. À elle seule, note l'auteur, la substitution des noms propres nous déporte sur un autre plan, par métalepse. Mais ce travail de décantation qui s'interdit toute expression immédiate du moi, contrairement aux autofictions bas de gamme, n'est pas réductible à une poétique. C'est aussi une règle de vie, et cette morale est celle du classicisme, teintée d'austérité janséniste. Camille a d'ailleurs reçu une éducation protestante. En vérité, le moi est haïssable, formule qu'elle reprend à son compte. Et c'est aussi en cela que pratiquer l'autofiction en écrivain classique est une entreprise paradoxale. Quand elle est naturelle, elle est gothiste romantique. Mais il n'y a là de contradiction que si l'on s'obstine à taxer l'autofiction de nombrilisme. Si Camille Laurence préfère parler d'écriture du soi plutôt que d'autofiction, c'est pour marquer, justement, une prise de distance. Le soi, écrit-elle, transcende le moi. Or, la paronomase est significative qui fait du classicisme l'antidote du narcissisme. Tout La Rochefoucauld montre en effet que les ravages de l'amour-propre sont fatals à l'amour. Et les auteurs du Grand Siècle nous ont montré comment dépasser le stade du miroir. Non seulement en ne se mettant jamais en scène que sur un mode fictionnel, car l'œuvre de Racine est autobiographique, comme celle de Molière, mais en tâchant au sein même de son monde imaginaire de peindre la nature humaine. La nature humaine, vieille notion scolaire, depuis longtemps passée de mode, mais dont on sent bien que Camille Laurence n'y a pas renoncé. Madame Bovary, écrit-elle, montre toutes les femmes, comme Don Juan ou Adolphe montrent tous les hommes. Car enfin, n'est-il pas vain de parler de soi ? À quoi bon écrire, si ce n'est pour exprimer des vérités générales et même viser à l'universel ? L'a-t-on suffisamment observé ? Chaque roman de Camille Laurence pose une question anthropologique, à commencer, comme chez Marivaux, par l'énigme irrésolue des rapports entre les sexes. Et le public l'a bien compris, qui a fait de « Dans ses bras-là », ce livre sur les hommes en général, tous, un immense succès de librairie. Encore, la fortune de ce livre peut-elle s'expliquer par d'autres facteurs, son humour, sa liberté d'écriture, l'impression d'authenticité qui en émane, la façon absolument inédite dont une femme parlait ici des hommes. En revanche, une preuve irréfragable de la contribution de Camille Laurence à l'élaboration des connaissances dans plusieurs champs scientifiques, psychopathologie, psychanalyse, sociologie des comportements, gender studies, réside dans les références faites à ces textes hors de notre discipline, dans les revues de sciences humaines et médicales. Quand il est devenu à la mode, pour sauver l'enseignement des lettres, d'insister sur la puissance cognitive de la fiction, sur sa capacité à révéler des choses que nul n'avait jamais perçues ni formulées, quelle meilleure confirmation en donner que cette caution des savants et des cliniciens. En somme, ni le roman d'analyse, ni l'ambition du moraliste, qui est de mettre à jour des vérités humaines, ne sont dépassés. Aussi, les récits de Camille Laurence s'achèvent-ils souvent sur un épilogue qui leur donne une signification générale quand ils n'en tirent pas la leçon. Ils sont surtout émaillés de méditations sur l'amour, sur la relation entre les sexes, une question qui la fascine, et de sentences gnomiques telles que « les circonstances sont bien peu de choses, le caractère est tout ». Les hommes n'aiment que de loin, loin des yeux, près du cœur. Si j'ai évoqué plus haut le versant janséniste du classicisme, c'est aussi en raison de l'admiration jamais démentie de Camille Laurence pour l'auteur le plus purement classique de tous, Racine. S'agissant d'un écrivain apparemment si dépourvu d'humour, malgré les plaideurs, la filiation peut surprendre. Et pourtant, comment ne pas voir que les questions agitées par l'un et l'autre sont en grande partie les mêmes, que les passions sont le nom que le siècle de Louis XIV donne à nos pulsions, et que de Bérénice à Andromaque, il n'est question que de la violence des rapports entre les sexes et de leur tendresse intermittente. Avant celle que vous croyez, n'avait-on pas déjà dans Phèdre la peinture d'une femme dont le tort serait de n'avoir plus l'âge d'aimer ? Est-ce d'ailleurs un hasard si ce dernier livre, celle que vous croyez, se teinte de tragique, qui devait s'intituler « Va mourir », d'après Corneille, n'eût été le refus de l'éditeur ? Au reste, ni toi ni moi racontait déjà une tragédie, un désastre, l'affreux ratage de l'amour. Mais plus que les thèmes d'inspiration, c'est la manière de Camille Laurence qui m'apparaît racinienne, et même le sens qu'elle donne à la vocation d'écrire. Face aux souffrances de l'auteur, des personnages, des narratrices, l'écriture est une catharsis et une sublimation dans tous les sens du terme. Cela signifie qu'elle transcende les traumas. La sublimation créatrice, dit l'auteur, permet d'échapper dans une certaine mesure au chagrin de nos vies. Par leur projection sur une scène imaginaire et par le polissage du style, qui est aussi une politesse, c'est-à-dire une façon de se tenir droit face aux blessures intérieures et à l'affolante prolifération des instincts. À elle seule, la froide introspection, par l'éclairage rationnel qu'elle jette sur ce grouillement intérieur, est une manière de le surmonter. Mais d'où vient avant tout la paradoxale sérénité qui suit la catastrophe, sinon de son esthétisation ? La beauté dit « ni toi ni moi » ne sert pas à masquer la vérité, mais à chanter le deuil, la douleur et la séparation pour les rendre supportables. Si le classicisme est cet espoir d'un art toujours dominé, cet idéal de maîtrise est aussi une exigence existentielle. L'originalité la plus racinienne de Camille Laurence est ainsi d'opposer à la vulgarité des autofictions grand public cette élégance qui est à la fois une poétique et un savoir-vivre, une façon d'être au monde, au demeurant suranné, tant il est vrai, je cite, que la galanterie n'a jamais paru avec si peu d'éclat que dans les dernières années du XXe siècle. Est-ce un hasard, en fin de compte, si Jacques, Luc ou Chris, ces amants incultes, sont aussi des goujats? Cette sublimation de l'expérience intime par l'écriture n'est pas seulement ce qui sépare de façon décisive l'œuvre de Camille Laurence de toute cette égo-littérature de prise unique où des personnalités se racontent sans retenue et sans style. Elle est aussi à rattacher plus largement à ce goût des allusions littéraires que j'évoquais pour commencer. Pour Freud, comme pour Ricoeur, la littérature est un moyen de dépasser le narcissisme infantile, et cette poétisation de soi est indispensable à la construction du sujet. À cet égard, comment ne pas penser à cet essai lumineux où le sociologue Christopher Lasch montrait, dès 1979, la corrélation dans les sociétés démocratiques modernes entre l'inculture et le narcissisme. Or, Camille Laurence ne dit pas autre chose, qui affirme que, s'il y a beaucoup de citations dans la plupart de ses livres, c'est pour qu'il y ait toujours de l'autre en elle, c'est pour ne pas sombrer dans le solipsisme. La romancière a dû souvent se battre contre ce préjugé qui ne voit dans l'autofiction qu'une introspection égocentrée. Mais en réalité, quoi de moins selfie que ses romans? À l'heure où, sur les réseaux sociaux, les égos prolifèrent comme autant de bulles insignifiantes, ces autofictions de grand style, en nous reliant à tout un patrimoine littéraire qui forcément relativise notre époque et nos petites personnes, est la leçon d'une moraliste et d'une classique à l'effroyable introversion des sujets postmodernes. C'est seulement de ce point de vue phénoménologique qu'on peut comprendre le refus obstiné de Camille Laurence de voir l'autofiction assimilée au narcissisme et au nombrilisme, puisque c'est exactement le contraire. Ainsi, la stupéfaction teintée d'indignation de Claire Milcam devant l'inculture de son psy n'est pas secondaire, elle n'est pas réductible à son effet de cocasserie. Et de même, l'interpolation constante de références littéraires n'est pas une coquetterie d'agrégé, comme on en soupçonne parfois l'auteur. Son discours n'est pas celui d'un néo-réactionnaire façon Richard Millet, prompt à déplorer le déclin de la vieille France et de la culture bourgeoise. L'introduction des nouvelles technologies de l'information dans le roman d'amour et la représentation ironique qu'en donne Camille Laurence à travers le regard légèrement déphasé de ses narratrices formées aux belles lettres et qui découvrent, éberluées et navrées, ces sujets de surface sans consistance ontologique, qui n'existe qu'à travers l'horizontalité des connexions numériques sans se rattacher à la profondeur d'une culture ni à la verticalité historique, n'est nullement destinée à conférer au vieux roman d'analyse une teinture contemporaine. Elle n'a pas pour fonction de nous faire respirer l'air du temps. Ce thème de la vacuité des consciences, corrélatif de l'invasion des écrans et du déclin du livre, me semble au contraire central, qui met en évidence la corrélation inaperçue entre l'inculture et la névrose d'une société tout entière gagnée par un narcissisme généralisé, dont l'un des symptômes est aussi l'absence totale de sentiments et la néantisation d'autrui. Si le « moi » prend une importance démesurée, pathologique, c'est que le sujet est devenu incapable de s'inscrire dans la longue durée et de replacer sa vie dans le continuum d'une civilisation qui lui donnerait sens. En somme, c'est l'inculture qui fait le lit du narcissisme. Et c'est pourquoi les allusions littéraires chez Camille Laurence ne sont nullement décoratives. Si elles sont si nombreuses dans l'avenir, par exemple, c'est bien que la question du devenir de la culture lettrée est au cœur du récit, avec, par exemple, cet adolescent, Thierry, qui se roule des pétards avec le papier Bible des Pléiades. Rappelons-nous aussi, dans « Les travaux d'Hercule », ce roman autobiographique signé Boulquier, dont le cynisme et la tonalité pornographique sont à la mesure de l'inculture de l'auteur et de ses références livresques, pif, dingo, rentemplant. En replaçant l'autofiction, le plus récent et le plus moderne des genres, dans l'héritage d'un classicisme dont les racines remontent à Périclès, Camille Laurence poursuit un but paradoxal, mais dont la portée ne saurait être réduite à je ne sais quelle stratégie éditoriale de distinction, le roman pour universitaires. Il est essentiel de voir, au contraire, que cette réinsertion de l'écriture intimiste contemporaine dans le champ de la haute littérature délimite, au sein du domaine si hétérogène de l'autofiction, une ligne de démarcation entre deux usages du genre, dont la différenciation n'est pas de degré, mais de nature. D'un côté, le déballage informe et littéral d'un sujet prisonnier de son psychisme comme d'une cage dorée. De l'autre, une élaboration fictionnelle qui sauve le sujet névrosé en raison même de la refiguration imaginaire qu'il impose à son trauma, de la tenue compositionnelle de son texte, de l'intelligibilité conférée par la moraliste à son histoire personnelle, désormais éclairée par une généralité anthropologique qui, par là même, en atténue les souffrances. Tous ces éléments d'une poétique de la transposition de soi sont inséparables de cette Haltung que s'impose la conscience menacée par l'éparpillement de ses humeurs et la rémanence de ses angoisses. On a vu qu'un tel changement de régime établit à l'évidence au sein des écritures du moi une hiérarchie esthétique entre les confessions mercantiles et une création authentique, entre un corpus destiné à l'oubli et un autre digne d'être inscrit à l'inventaire de notre patrimoine. Car qu'est-ce qu'un classique ? Sinon, un auteur sélectionné entre tous parce qu'il mérite d'être lu en classe. À ma connaissance, il n'y a pas encore de petit classique Larousse, Camille Laurence. Trop de passages un peu crus, peut-être. Mais cette consécration institutionnelle passe toujours, au préalable, par la reconnaissance universitaire et l'inscription au programme de licence ou de master. Dans le cas présent, ce mouvement a déjà commencé. L'œuvre de Camille Laurence est désormais étudiée sur les 5 continents et dans une 20aine de pays, de la Finlande au Liban, de la Pologne à l'Australie, de la Chine au Brésil. Je terminerai en rappelant que le terme de classique, appliqué aux grands auteurs, est à l'origine une métaphore politique qui renvoie à la hiérarchie sociale dans la République romaine. Classici cives, ce sont les citoyens de premier rang, de premier plan. Laurence Ruel y a-t-elle songé en forgeant son nom de plume Virgilien ? Ce pseudonyme, Laurence, projette en tout cas sur toute son œuvre cette lumière méditerranéenne si chère à nos classiques, la saignant de surcroît et comme par prédestination d'une couronne de laurier que nul ne songe plus à lui contester.